RCF. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qui revient chaque année qui ne fait que passer, à part mon anniversaire, je ne vois pas ? Eh bien, les impôts, bien sûr, déclaration d'impôts, cette période de l'année où le contribuable jongle avec les chiffres, les formulaires, cherchant désespérément à minimiser leurs factures fiscales. Mais au-delà de cette routine annuelle, il est temps aussi de nous interroger sérieusement sur le sens même de l'impôt. L'impôt sur le revenu, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été conçu pour financer les dépenses publiques, les dépenses sociales, assurer le fonctionnement de l'État. Cependant, dans un monde qui est en constante évolution, où les défis sociaux, environnementaux et économiques se multiplient, eh bien il est légitime de se demander si notre système fiscal actuel est toujours adapté à cette réalité qui est très changeante et très mouvante. D'un côté, nous entendons parler d'optimisation fiscale, de stratégies visant à réduire au maximum notre charge fiscale, mais au-delà de ces considérations individuelles, il est aussi extrêmement important de réfléchir de manière collective à ce qu'est la finalité de l'impôt. Quels sont son rôle dans notre société ? Quels sont les services publics que nous souhaitons financer ? Comment assurer une répartition équitable des ressources pour répondre aux besoins de tous les citoyens ? Certains avancent l'idée intéressante d'ailleurs de l'impôt volontaire inspiré par des modèles de la philanthropie. L'idée est séduisante, permettre aux contribuables de choisir des domaines dans lesquels ils souhaiteraient investir leur argent en soutenant des causes qui leur tiennent à cœur. Cependant, cette approche soulève également des questions complexes sur l'équité et la solidarité. Car au fond, l'impôt n'est-il pas avant tout un pacte social, un moyen de redistribuer les richesses et de garantir un minimum de cohésion sociale en repensant notre système fiscal ? Nous devons donc nous interroger sur les valeurs qui les sous-tendent et sur les objectifs que nous souhaitons atteindre en tant que société. Bref, en conclusion, chers amis, chers auditeurs, la période de l'impôt, c'est l'occasion idéale de réfléchir à ces questions essentielles, voire même existentielles. Au-delà des calculs et des formulaires, rappelons-nous que l'impôt est un outil au service du bien commun. En attendant vos prochaines déclarations, réfléchissons ensemble à la manière dont nous pouvons rendre notre système fiscal plus juste, plus fraternel, plus transparent, plus inclusif, plus solidaire. Bienvenue dans l'écho des solutions, quoi.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Une semaine qui ouvre le patchwork des jours fériés du mois de mai. Autant dire que c'est plus compliqué pour nous, de journalistes, de travailler et de concevoir des émissions car nous devons faire face au congé des uns et des autres. Bref, on va pas parler de cela aujourd'hui, on va parler des impôts. Et oui, vous avez dû recevoir dans vos boîtes lettres ou dans vos boîtes mail la signification qu'il fallait déclarer vos impôts. Eh bien, on va évoquer avec Wojtek Kalinowski, qui est co-directeur de l'Institut Veblen et rédacteur en chef de la revue trimestrielle L'économie politique, co-publiée avec Alternative économique. On va évoquer la question de l'impôt sur toutes ses formes. On va aussi parler de solidarité avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Stéphane Dauge, directeur de la communication et du développement des ressources des apprentis d'Auteuil. Les Français ont-ils été plus généreux, plus solidaires cette année ? C'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants dans l'invité écho. En fin d'émission, on parlera d'une action que je vous ai déjà présentée. Il s'agit de 1% pour le planète, 1% for the planet. Ce sont des entreprises qui s'engagent à reverser 1% de leurs bénéfices à une structure qui œuvre à rendre notre monde plus meilleur, plus durable. On verra ça avec son délégué général d'ici une bonne cinquantaine de minutes à la fin de cette émission. Mais on commence tout de suite avec notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Stéphane Dauge, directeur de la communication et du développement des ressources aux apprentis d'Auteuil. Avec lui, on évoque le cinquième baromètre de la solidarité des Français.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Éco, ça rime avec impôt. Ce sera le cœur de notre dossier qui viendra tout de suite après la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais pour commencer, notre invité éco de cette semaine est Stéphane Dauge, directeur de la communication et de la collecte de fonds aux apprentis d'Auteuil. Bonjour Stéphane.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer avec vous la cinquième édition du baromètre de la solidarité que vous avez réalisé avec l'Institut Ipsos début 2023, alors que l'inflation atteignait un niveau record. Le baromètre soulignait de nombreuses craintes pour les Français en termes de générosité, puisque on le sait bien. Le mois de mai est le temps des déclarations et c'est là que l'on rentre le chiffre des dons qu'on a fait. Qu'en est-il en 2024? Est-ce que ces craintes étaient avérées, Stéphane?
Alors, ce que nous indique la cinquième édition de ce baromètre, c'est que les Français qui, en effet, l'année dernière, craignaient que l'impact de leur inflation sur leur pouvoir d'achat bride leur générosité, ces Français nous disent qu'ils ont pu, en 2023, effectuer des dons qui étaient en moyenne supérieurs à ce qu'ils avaient pu effectuer en 2022. Donc, même si on sait que l'inflation baisse et on parle de tassement actuellement, elle est d'à peu près moitié ce qu'elle était il y a un an. Ce que nous montre ce baromètre, c'est que les Français ont pu exprimer leur générosité.
Et quels sont les leviers de cette générosité? Est-ce que le baromètre peut nous dire quels sont les secteurs qui sont le plus ou moins impactés par cette générosité, Stéphane?
En fait, ce que nous indique le baromètre surtout, c'est que cette générosité des Français, elle émane d'une compréhension croissante des besoins des associations, d'une envie d'aider. Et les Français, vous, médias, vous en faites largement l'écho, sont conscients que malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une société avec une forte hausse de la précarité et donc des besoins des plus vulnérables d'entre nous.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des secteurs qui n'étaient pas en pointe il y a quelques années, qui deviennent plus bankable, on va dire, sur les collectes de fonds, et d'autres moins? Ou est-ce que finalement...
Lorsque l'on interroge les Français sur, en fait, quelles sont les causes suscitent davantage leur générosité, cette cinquième édition du baromètre nous montre... Alors bon, donc c'est un baromètre qu'on avait démarré en 2020 lors des premiers confinements de la crise sanitaire. Depuis 4 ans, la cause qui venait en tête, c'était la santé et la recherche médicale.
Ce qui était logique et compréhensible à l'époque, oui.
Tout à fait. Et cette année, pour la première fois, cette cause est détrônée par l'aide aux personnes démunies. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a vraiment cette conscience du fait que exprimer sa générosité aujourd'hui est un peu de la responsabilité de tous ceux qui ont les moyens de le faire, dans la mesure où une partie de nos concitoyens souffrent de cette baisse du pouvoir d'achat, de la difficulté de joindre les deux bouts. Je pense également que les Français ont pris conscience que le quoi qu'il en coûte est derrière nous et que l'État, qui ne peut pas tout faire, s'appuie aujourd'hui de plus en plus sur les acteurs associatifs.
Ces acteurs associatifs, alors vous parliez d'avoir les moyens. Quel est le profil des donateurs? Ce sont des gens riches, ce sont des gens aisés, ce sont des gens plus pauvres? Est-ce qu'on peut déterminer aujourd'hui qui sont les donateurs en France?
Alors nous, traditionnellement, dans notre baromètre, on interroge d'une part l'ensemble des Français et puis d'autre part, on interroge un certain nombre de Français dits à haut revenu, qui sont des foyers ayant un revenu net fiscal égal ou supérieur à 120 000 euros par an. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'ensemble des Français, on voit que les cadres supérieurs, bien entendu, expriment leur générosité et ils l'expriment. Ils sont plus nombreux à l'exprimer que l'année dernière. Mais si vous voulez, en fait, ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'en fait, l'ensemble des Français, quel que soit leur revenu, quel que soit leur âge, répond présent. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que traditionnellement, la générosité émane de Français d'un certain âge, voire retraités. Là, ce que nous apprend le baromètre cette année, c'est qu'en fait, on a quasiment autant de jeunes de moins de 35 ans que de seniors qui nous disent avoir fait un don en 2023. Et ce qui est également assez touchant, c'est de voir que près de 4 Français sur 10, dont le foyer a des revenus inférieurs à 15 000 euros net annuels, ce qui reste relativement modeste, nous dit également avoir effectué un don. Donc vous voyez, il y a vraiment... alors bien entendu, plus on dispose de revenus, de moyens, plus on peut exprimer sa générosité. Les Français disposant de hauts revenus nous disent en moyenne que le montant général des dons qu'ils ont pu effectuer en 2023 est 8 ou 9 fois supérieur à ce qui est déclaré par l'ensemble des Français. Donc il y a véritablement une prise de conscience du fait que en fonction des moyens dont on dispose, on est tous en quelque sorte appelés à répondre aux appels que lancent les acteurs associatifs pour venir en aide aux populations les plus fragilisées dans notre pays.
Alors, dernière question avant de nous quitter. On a parlé tout à l'heure de l'inflation. Est-ce que cette inflation est venue éroder cette baisse de pouvoir d'achat est-elle venue éroder la capacité? Est-ce que ça a été une réflexion pour les Français de se dire peut-être que cette année je donnerai pas ou je donnerai moins parce que mon pouvoir d'achat est moins fort? Est-ce que ça s'est ressenti?
Alors, ça a été effectivement une réflexion l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, on avait davantage de Français qui nous disaient « moi, je crains l'inflation et son impact sur le pouvoir d'achat me conduisent à donner moins l'an prochain ». Ils étaient deux fois plus nombreux à dire cela que ceux qui estimaient pouvoir donner un petit peu plus. Donc l'an dernier, effectivement, nous étions tous assez inquiets. Ce que les chiffres qui sont déclarés cette année dans le baromètre nous montrent que l'inflation a eu peu d'impact sur leur générosité, puisqu'ils ont été, ils disent qu'ils ont été plus généreux que l'an dernier. Mais surtout, je pense le grand enseignement, c'est qu'ils nous disent aussi qu'ils sont conscients du fait que l'inflation, même si elle diminue, est gravement handicapante pour un certain nombre d'entre nous qui avons du mal à joindre les deux bouts en fin de mois. Donc, je dirais que l'inflation n'a pas, la conclusion on peut dire, c'est que l'inflation ne semble pas avoir bridé la générosité, mais elle semble avoir incité les Français à venir en aide à ceux pour qui justement cette inflation a des conséquences importantes, ne serait-ce que sur les dépenses alimentaires.
Et quelles seraient les tendances pour 2024? On en sait déjà un petit peu, Stéphane?
Alors, pour 2024, quand on interroge les Français, ils nous disent que ils comptent effectuer des dons à peu près comme ils l'avaient manifesté l'année dernière. C'est-à-dire que on a plus d'un Français sur deux qui nous dit avoir l'intention d'effectuer un don en 2024 et plus de 4 sur 5 quand on interroge des Français disposant de hauts revenus. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, vous savez, nous sommes toujours très prudents dans la mesure où la collecte, c'est l'affaire de chaque jour. Et nous savons, et c'est pour ça d'ailleurs que ce baromètre sort au moment de la déclaration d'impôt, nous savons qu'en fait, il y a deux temps forts dans la collecte et dans l'expression de la générosité. Le premier, naturellement, qui est le dernier trimestre de l'année, parce que et c'est l'approche de Noël, et le second, qui est le printemps. Mais ce qui est certain, c'est que il est important aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs associatifs de bien communiquer sur l'impact que cette générosité a sur les publics accompagnés, dans la mesure où les Français sont soucieux d'exprimer leur générosité, mais également soucieux de savoir que cette générosité est bien employée.
Merci beaucoup Stéphane Dauge d'avoir été notre invité Écho de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. À très bientôt, bon courage et bonne continuation pour l'œuvre des apprentis d'Auteuil.
Merci Patrick Lanchamp.
Merci beaucoup, au revoir.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Et on va parler avec Pierre Collignon de la fête du travail. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors donc le 1er mai, eh bien, c'est la fête du travail. Vous souhaitez faire un peu d'histoire et nous rappeler un aspect peu connu de la pensée sociale chrétienne qui affirme avec force l'importance du monde syndical. L'Église, Pierre, a-t-elle eu un temps d'avance sur la société civile sur cette question ?
Incontestablement, Rerum Novarum, vous savez cette fameuse encyclique de Léon XIII en 1891 est prophétique parce qu'il avait bien compris que la révolution industrielle portait de nombreuses atteintes à la dignité des travailleurs, et il y dénonçait en termes très vifs l'injustice sociale et la misère du monde ouvrier.
Alors c'est l'origine de la position de l'Église sur le syndicalisme, Rerum Novarum ?
Léon XIII a réellement posé à ce moment-là les premières pierres, même si, sans exclure les syndicats ouvriers, il semblait préférer les corporations telles qu'elles existaient avant 1791 en France. Celle-ci, vous le savez, associait patrons et ouvriers dans des associations de métiers où se réglaient les questions d'emploi, de salaire, de conditions de travail, et incluait également des caisses de solidarité.
Quels étaient les enjeux en cette fin de 19e siècle, Pierre ?
À cette époque très troublée, on est en pleine montée du marxisme face à un patronat qui néglige réellement et objectivement la question sociale. Et dans ce contexte, Léon XIII avait à cœur de promouvoir le progrès social dans la paix sociale, sans lutte des classes et en refusant l'idéologie socialiste de la suppression de la propriété privée.
Alors après Rerum Novarum, les textes pontificaux parlent de plus en plus clairement de syndicalisme ouvrier plutôt que de corporation de métiers.
Oui, même si déjà dans Rerum Novarum, le droit d'association était clairement affirmé comme un droit naturel, tout comme le droit de propriété. 80 ans plus tard, Paul VI se faisait le chantre des syndicats autonomes de travailleurs en disant qu'ils avaient pour objet la représentation des diverses catégories de salariés, de travailleurs, leur légitime collaboration à l'essor économique de la société, le développement du sens de leurs responsabilités pour la réalisation du bien commun, etc.
Alors sur quel principe se base cette position de l'Église ?
D'abord et avant tout sur le principe du bien commun, car en assumant la défense de leurs justes droits vis-à-vis des entrepreneurs et des propriétaires des moyens de production, les organisations syndicales contribuent à la construction de l'ordre social et de la solidarité. Alors certes, le syndicalisme n'est pas la seule voie de défense des plus défavorisés, mais dans Laudato Si, le pape François évoque à nouveau le rôle positif des corps intermédiaires en rappelant que leur vocation est bien la lutte pour la justice sociale, mais particulièrement à partir d'initiatives locales de l'économie sociale et solidaire.
Merci beaucoup Pierre, on se retrouve nous d'ici quelques instants avec notre invité de cette semaine. Il s'agit de Wojciech Kalinowski, avec qui on va évoquer la question de l'impôt. Quelle place elle prend ? Est-ce qu'il faut réformer l'impôt ? Quelle place pour l'impôt demain ? Voilà, autant de questions que l'on se pose en ce moment, puisque les déclarations de revenus sont dans les tuyaux informatiques ou dans vos boîtes aux lettres. Merci beaucoup Pierre, à très bientôt, au revoir.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, on ouvre le dossier de cette semaine. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler de l'impôt. Vous le savez, depuis quelques semaines, vous êtes en mesure de pouvoir déclarer votre revenu, soit par le biais du numérique, soit par le biais papier encore, pour certains d'entre vous. Que vous soyez éligible ou non éligible, la question de l'impôt se pose chaque année. Elle se pose même tous les jours si on prend certains impôts indirects comme la TVA, niche fiscale, optimisation de l'impôt et j'en passe. Toutes ces questions-là, vous voulez poser en ce moment et nous, on a décidé avec mon invité, Wojciech Kalinowski, de parler de la question de l'impôt. D'où il vient, pourquoi il est accepté, pourquoi il n'est pas accepté, pourquoi on s'en méfie de cet impôt et puis surtout, quelle vision de l'impôt pour demain. Je vous salue. Wojciech Kalinowski.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vous avait reçu en novembre 2022, pour évoquer la question des monnaies locales dans le cadre de notre partenariat entre RCF et les Journées de l'économie autrement. Vous êtes rédacteur en chef du magazine trimestriel L'économie politique et justement dans votre numéro 96 qui date d'à peu près un an et 18 mois à peu près, vous évoquiez cette question de l'impôt demain. Bien évidemment, il y a plein d'autres sujets. Peut-être qu'on vous retrouvera d'ailleurs dans une autre émission sur la question de l'industrie verte en Europe. Et vous êtes aussi cofondateur, directeur de l'Institut Veblen. Est-ce que je ne me suis trompé en rien dans votre présentation ?
Co-directeur. Avec Mathilde Dupré, qui est ma co-directrice à l'Institut Veblen, qui est un think tank, comme on dit aujourd'hui, dédié à la question des transitions écologiques et notamment en débat sur les réformes économiques dont on aurait besoin pour mener à bien la transition.
Alors, on va évoquer avec vous la question de l'impôt. C'est un sujet très vaste, l'impôt. Et d'ailleurs, même quand on prononce son nom, on frémit un petit peu parce que finalement, on se fait prendre une part de son capital chèrement gagné, peut-être même à la sueur de son front, pour le remettre dans les caisses entre les mains de l'État. Est-ce qu'on sait dire depuis quand vient l'impôt ? J'ai l'impression parfois que l'impôt, il est quasiment né avec l'humanité.
Il est effectivement né avec l'humanité et il est aussi vieux que l'État, mais il est aussi, la question de l'impôt est aussi au cœur, disons, de l'émergence de la démocratie. Comme disent nos amis anglo-saxons, il n'y a pas de taxation sans représentation. Par quoi ils entendaient que le roi pouvait pas assujettir ses citoyens, ses sujets, pardon, à l'impôt sans le consentement du Parlement. Donc, nous avons ici, dans l'Europe occidentale, connu des siècles et des siècles de lutte autour de l'impôt entre le pouvoir royal et le Parlement. Et finalement, bon, pour faire d'histoire longue courte, la démocratie représentative a émergé et aujourd'hui c'est le Parlement qui sont au cœur des décisions concernant l'impôt, même en France. On l'a vu d'ailleurs, on le voit actuellement en France d'ailleurs, puisque l'exécutif ne dispose plus d'une majorité au Parlement, comme vous savez, et on voit un peu le résultat aussi sur le plan fiscal, puisque si vous comparez le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, bon, il était beaucoup plus riche en réforme fiscale que le second. Et c'est une conséquence directe, je pense, du rôle du Parlement. Donc, nous sommes avec l'impôt, nous sommes au cœur de la question démocratique. Et c'est aussi sans doute pour cela que c'est tellement compliqué, tellement lourd de passion aussi, de passion démocratique, parce que il s'agit à la fois, la question de l'impôt nous porte tout de suite au cœur des inégalités sociales, au cœur du projet des sociétés qu'on souhaite, mais aussi au cœur de désaccords politiques. Mmh. Nous l'avons vu, enfin, en France, on l'a vu souvent, mais plus récemment, chacun se rappelle des Gilets jaunes et des protestations contre la taxe carbone, par exemple, qui a tout de suite fait exploser la question de la légitimité de l'impôt.
Oui, et en même temps,
donc,
c'est pas...
c'est vraiment un nœud qui est au cœur de ouais, nos démocraties.
Et en même temps, il y a des formes de paradoxes. Et on a évidemment l'impôt, par définition, a toujours mauvaise presse. À la fois, il est accepté, mais il est accepté comme quelque chose de subi. Pourquoi est-ce qu'il a si mauvaise presse ? Qu'est-ce que c'est lié au fait qu'on ne sait pas où va notre argent ? On n'a pas de traçabilité de ce à quoi sert l'impôt ? Est-ce que c'est l'héritage d'une histoire qui fait que l'impôt a toujours été injuste ? Donc, par définition, dans notre ADN, on est face à une injustice quand on prélève l'impôt ?
Bah, c'est un peu tout ça à la fois, effectivement. Je pense que dans une société comme la française, déjà il y a un attachement très marqué au modèle social européen, au modèle social français. Et quand on regarde les enquêtes, on voit bien aussi que la plupart des Français disent clairement que c'est important de payer des impôts. Mmh. Donc le principe de l'impôt est bien reconnu, et parce que chacun comprend que c'est via l'impôt qu'on finance les services publics, alors qu'on n'arrête pas de parler de la crise de l'école, la crise de la santé publique, etc., etc. Et donc, chaque fois, on retombe sur la question des ressources. Donc, quelque part, la contradiction que vous pointez, elle est naturelle, parce que chacun souhaiterait un état social fort et généreux, mais ensuite, il faut le financer, et là, évidemment, commencent les questions, puisqu'on se compare toujours à nos concitoyens. Mmh. L'impôt doit quand même, comme il est exigé à tout le monde, donc la question de la justice, dans la répartition des efforts, elle est fondamentale, mais comment dire, c'est une question qui est toujours posée à nouveau pour chaque nouvelle génération. Donc il y a toujours ceux qui se sentent lésés par l'impôt, et il y a toujours des révolutions fiscales, révolutions, en tout cas des contestations fiscales. Ça fait partie du jeu démocratique quelque part. C'est normal. Après, chaque démocratie va le faire à sa sauce. Dans certaines cultures démocratiques, vous avez plus des contestations dans la rue. Dans d'autres, ça passe uniquement par le vote, par la démocratie représentative, quand les citoyens votent aux urnes. Donc, il y a une culture démocratique, mais dans chaque culture démocratique, vous allez retrouver ces questions autour de la répartition. Et donc, il n'y a pas, évidemment, de réponse neutre à ces questions-là. Il y a un attachement, je pense, très largement partagé à la solidarité nationale, européenne, locale, à toutes les échelles.
Est-ce que ça voudrait pas dire aussi que les gouvernements, les États, les collectivités locales soient plus clairs sur ce à quoi a servi l'impôt? On a l'impression, je vais prendre par exemple la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui est, disent certains, le plus injuste des impôts, parce qu'il touche toutes les populations, des plus riches aux plus pauvres. Mais on ne sait pas où va la TVA, à quoi sert la TVA, qu'est-ce qu'elle vient financer, l'impôt sur le revenu. On ne sait pas. Autant, j'ai envie de dire, les impôts locaux, mais qui tendent à disparaître. On peut remarquer dans les rues un nouveau bitume, une nouvelle piscine, de nouveaux éléments pour le vivre ensemble. Mais au niveau de l'État, c'est plutôt compliqué de comprendre ce à quoi sert notre impôt. Et c'est ça aussi peut-être un des enjeux.
Absolument, ça, vous avez tout à fait raison de pointer ces problèmes-là. Il est particulièrement, disons, présent dans le modèle fiscal français, qui est quand même très centralisé. Dans d'autres pays européens, dans les pays scandinaves par exemple, ce sont justement les collectivités qui reçoivent directement les impôts, qui décident elles-mêmes du taux d'imposition, qui reçoivent directement les impôts, mais qui ensuite, en contrepartie, ont des devoirs, disons, des obligations, des résultats pour assurer une place en crèche à tous les enfants de la commune, par exemple, à financer les écoles publiques, etc., etc. Donc il y a un lien beaucoup plus local dans d'autres pays, tandis qu'en France, ça a toujours été dilué. Et donc c'est vrai que ça participe sans doute du problème. Et vous avez en même temps pointé un deuxième type de problème, qui est celui, parce que vous avez mentionné la TVA. Et effectivement, quand on regarde le débat sur l'impôt, on voit bien que c'est surtout l'impôt sur les revenus qui suscite le plus des passions, alors qu'en réalité, c'est la TVA qui est la première source fiscale en France, beaucoup plus importante que l'impôt sur les revenus. Et quand vous dites très justement, c'est une flat tax, comme on dit aujourd'hui, c'est le même taux pour appliquer pour tout le monde, ce qui veut dire que pour se nourrir, les pauvres payent relativement beaucoup plus que voilà. Alors que le débat quand vous abordez normalement le plus souvent quand la question de l'impôt est abordée dans le débat politique, c'est pas du tout ça qu'on dit. On dit que 50% des ménages est exempté de l'impôt, mais par quoi on entend l'impôt sur les revenus? Et donc on oublie tout ce que vous avez mentionné. Oui, donc vous voyez, là, vous avez déjà le lien.
Mais parce que aussi l'impôt sur le revenu est celui qui sert de base à toutes les aides sociales. C'est à partir de ce net fiscal sur lequel on est qu'on va pouvoir obtenir telle aide sociale, tel logement, tel service aussi de l'État centralisé.
Oui, alors il y a des aides contributives effectivement qui dépendent de vos revenus, mais quand on regarde le financement ensuite, comment dire, il faut quand même imaginer un système où toutes ces différentes sources de recettes publiques entrent dans une caisse et ensuite l'État répartit les dépenses. Donc c'est pas exactement l'impôt des revenus qui va financer telle et telle partie des dépenses. Il faut regarder la globalité des recettes et la globalité des dépenses, c'est ça qui compte. Donc dans ce tableau global, je trouve que La France, aujourd'hui, représente un modèle qui a bien résisté à des réformes libérales, en tout cas dans quand on regarde un peu l'histoire longue, dans la revue que vous avez mentionnée, dans l'économie politique, nous avons demandé à Xavier Timbaud de l'OFCE de nous dresser un peu un portrait historique, en tout cas un portrait à 30 ans de l'évolution à la fois des réformes fiscales et finalement de ce qu'elles donnent, à la fois de l'impôt et des inégalités sociales. Et on voit bien que la France, en France, les inégalités sociales augmentent bien moins vite que dans la plupart des pays européens.
Donc finalement, on a une forme d'impôt qui est un bouclier à la montée des inégalités sociales.
Absolument, absolument. En revanche, l'impôt n'arrive pas à inverser la tendance, c'est-à-dire on voit une grande stabilité ou une stagnation des inégalités, la situation ne s'améliore pas. Mm-hmm. Donc, je pense que pour avoir vraiment une vraie légitimité de l'impôt, une vraie acceptabilité, il faudrait aussi voir une tendance au progrès social, tout simplement. Mm-hmm. Donc, c'est une question de point de vue, est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide.
Alors, comme disait ma grand-mère, si ton verre est à moitié vide, prends-en un plus petit, il sera plein.
Donc, elle avait effectivement la perspective comparatiste déjà en vue, parce qu'effectivement, on peut toujours comparer avec d'autres. Bon, toujours est-il que c'est la France qui est plutôt au sommet, disons,
on dit toujours de la France qu'elle est un des pays où on est le plus taxé. Quand on lit votre revue, on s'aperçoit que si on met en parallèle le prélèvement fiscal avec le PIB, finalement, on s'en sort plutôt pas mal, finalement. On est...
En tout cas, c'est un modèle fiscal qui s'est construit finalement dans les années 70 et 80 et qui a beaucoup résisté à une époque qu'on appelait l'époque libérale, voire néolibérale, et qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que les prélèvements obligatoires représentent quelques 43%, je pense qu'un 43% épidémie du PIB l'année dernière. Donc c'est plutôt au sommet, disons, de l'échelle, si on compare du classement européen. On va pas entrer dans les questions techniques, mais ensuite il y a plusieurs façons de mesurer, parce que par exemple en France, une bonne partie de la différence qu'on constate entre la France et d'autres pays s'explique par les dépenses de retraite. Or dans d'autres pays, il y a une partie des dépenses de retraite qui passent par des conventions privées, collectives, qui ne compte pas donc statistiquement, qui ne compte pas comme des prélèvements obligatoires.
C'est ça.
Donc, ça biaise
un petit peu les comparatifs. Et bien justement, on va voir si vous avez parlé de différentes réformes fiscales qui ont eu lieu dans ces trois dernières décennies. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas simplement tout remettre à plat, repenser la question de l'impôt de manière plus générale, se dire peut-être qu'il faut se séparer de l'impôt sur le revenu pour en inventer un autre qui soit peut-être plus juste, qui réponde plus à notre raison d'être du moment. Je propose qu'on fasse une pause musicale, Wojtek, dans l'écho des solutions. On vous retrouve tout de suite après.
Tournant tout de l'enfant.
c'était Argent Trop Cher, interprété par le mythique groupe Téléphone. On ne pouvait guère faire autrement. Il y avait aussi Money Money, Daba, éventuellement. Mais bref, on a choisi ce groupe Made in France et on continue tout de suite notre réflexion sur l'impôt avec notre invité de cette semaine.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est temps d'ouvrir la deuxième partie de notre échange avec vous, Wojtek Kalinowski. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'économie politique, un trimestriel copublié avec Alternative économique. Vous êtes co-directeur aussi de l'Institut Veblen. On se pose la question de l'impôt demain. C'était l'objet du numéro 96 de cette revue. On voit qu'il y a beaucoup de régimes fiscaux qui sont revus, des réformes fiscales qui sont faites. La question, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre l'impôt à plat et se dire bah, finalement on efface tout et on recommence.
Bah il y a, si mon avis personnel, c'est sans doute, ça serait sans doute utile. Après je constate que on rafistole plutôt un bateau qui tout en ramant. C'est ça en réalité la réforme fiscale, c'est toujours des adaptations, modifications de à l'architecture. Apporter à l'architecture existante. Donc, en revanche, il faut toujours poser et mener, disons, le débat sur les grands principes qu'il faudrait restaurer. Donc, je pense que déjà nous avons évoqué deux grands principes. Le premier, c'est effectivement de la lisibilité. C'est vous-même qui l'avez pointé, puisque c'est la question du lien, notamment entre les citoyens et les collectivités. Et donc la lisibilité passe en grande partie par des modèles où l'impôt est beaucoup plus localisé, prélevé directement par les collectivités, et où les collectivités rendent compte auprès des citoyens de comment il est dépensé. Ça c'est donc ça c'est sans doute un grand principe, ou tout simplement bon il n'y a pas d'autre choix que de continuer le débat tout simplement là-dessus. Et le deuxième principe, c'est sans doute comment dire, la justice, mais au sens plus étroit d'exception des niches fiscales. Dans l'économie politique, justement, ma collègue Mathilde Dupré, qui travaille beaucoup sur les questions de régulation du commerce et des entreprises et de la mondialisation, et la écrit un article sur la taxation internationale des entreprises, donc où elle rappelle que au moins un tiers des profits réalisés par les multinationales sont toujours planqués quelque part dans des paradis fiscaux. Il y a une question de toutes les niches fiscales et notamment les niches et de l'optimisation fiscale. Pratiquée par les multinationales, mais pas forcément par les PME du coin. C'est pas, donc il y a une grande inégalité des entreprises entre elles aussi. Donc c'est sans doute un deuxième principe. Ça veut dire que chacun devrait contribuer selon ses capacités. Et c'est qu'on constate depuis 30 ans de mondialisation de économique, financière, c'est que il y a une concurrence fiscale de plus en plus accrue. Et avec pour conséquence le moins-disant fiscal à l'échelle internationale. Une nouvelle fois, nous ici en France, on a été relativement protégés, mais même sur ces plans, même vous voyez bien qu'il y avait une réforme sur la taxation des dividendes, par exemple, sur le revenu du capital, pardon.
Alors justement,
qui allait dans ce sens en France en réalité. Donc il y a cette question de qui paye combien et les forts, les puissants et les faibles, les forts face à l'impôt.
Si on trouvait une solution, et je fais écho à ce que j'ai lu il y a quelques années sur les recherches d'un économiste suisse qui avait fait un calcul savant qui expliquait que si on prenait, alors c'est l'équivalent d'une taxe Tobin, mais pas vraiment une taxe Tobin quand même, c'est-à-dire une sorte de micro-taxe sur toutes les dépenses électroniques, tous les transferts monétaires électroniques en allant de Lydia jusqu'aux plus grosses transactions d'actions sur les marchés boursiers, on pourrait, pour la Suisse en tout cas, se passer de l'impôt. parce que finalement, ça remplirait suffisamment les caisses de l'État pour remplir son rôle d'État. Alors, est-ce que aujourd'hui, je vais vous poser deux questions. On va commencer par la première. Est-ce que un, il serait bon pour un pays de se passer de l'impôt? Est-ce que anthropologiquement parlant, ne pas avoir d'impôt serait bon? Et deuxième question, est-ce que une solution telle que celle-là pourrait se mettre en place?
Sur la première, je pense que démocratiquement, non. C'est assez clair, il faut on retrouve la taxation et la représentation démocratique. Donc je pense pas du tout. Et deuxièmement, je connais la proposition, c'est notamment l'économiste Marc Chenet suisse qui la promeut. Sur un plan plus technique, il faut distinguer au sein de l'assiette fiscale, il faut distinguer ce qui peut s'envoler ailleurs très facilement. Comme les transactions, beaucoup de transactions financières, et ceux qui ne peuvent pas. J'ai vu même les calculs des marques à l'époque, ils élaboraient sa proposition. Donc il y avait beaucoup d'incertitudes dans ce financement, notamment à la réaction des acteurs financiers. Donc finalement on voyait bien que la partie la plus stable dans cette solution là, c'était pas du tout la transaction financière au sens strict du terme,
mais c'était l'acceptation.
C'était les recettes qui étaient les plus sûres, qui n'allaient pas s'envoler ailleurs, c'était les recettes des consommateurs suisses, parce qu'ils utilisent chaque fois que vous utilisez la carte bancaire, vous êtes imposé. Moi je trouve pas que cette idée répond vraiment l'idée de, c'était le troisième principe dont il faut continuer de débattre, c'est le principe de progressivité. Il faut que ceux qui sont plus aisés contribuent relativement plus. Tout au contraire, c'est tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Et dans cette solution-là de la taxation financière, Marc Chenet nous expliquait que comme les classes aisées consomment plus, donc ils utilisent plus leur carte bancaire, donc ils allaient contribuer plus aux recettes de l'État, mais je suis pas convaincu. Je pense que ce lien doit être le lien entre l'activité et l'impôt, c'est très important. Et globalement, ce dont nous avons besoin, c'est d'orienter l'impôt vers plus de progressivité et pas vers moins. Parce que comme je disais, c'est la TVA qui est la principale source fiscale déjà en France. Vous avez mentionné la CSG, qui a certes l'avantage de reposer d'inclure aussi des non-actifs dans l'assiette, mais qui elle non plus, elle n'est pas progressive non plus. Donc on voit quand même globalement qu'à l'intérieur d'un taux de prélèvement qui reste stable, à un niveau élevé, on voit bien que la progressivité de l'impôt baisse. Et ça, c'est une source d'inquiétude. Et la proposition de Marc Chenet n'y répond pas.
Alors, on va revenir à cette réforme de l'impôt. Dans la revue aussi, vous évoquez la notion d'écologie, parce que vous pensez, et peut-être à juste titre d'ailleurs, que finalement, on a plutôt des optimisations et des niches fiscales qui sont anti-écologistes, qu'il faudrait revenir à une imposition qui mette en avant la dimension écologique. On voit arriver la CSRD, cette double matérialité de la comptabilité avec la mise en place d'une matérialité du social et de l'environnemental. Est-ce que ce n'est pas une bonne base pour réfléchir une nouvelle taxe, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne rempliraient pas des objectifs acceptables, et donc on viendrait taxer finalement la non-compétitivité des entreprises sur le domaine social et environnemental?
C'est une bonne base théorique parce que elle fait apparaître les coûts cachés et les inégalités entre quelqu'un qui continue de faire des profits en polluant la planète et quelqu'un qui fait un vrai effort et donc dont les produits sont finalement plus chers parce qu'il a respecté la planète, par exemple. Donc, mais c'est une chose de faire apparaître les coûts cachés, les coûts liés à la dégradation de la planète ou de la biodiversité ou aux émissions CO2, etc. Ça, c'est une chose, de faire apparaître les coûts. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ensuite? Comment vous les financez? Donc là, c'est ce débat-là qu'il faut mener aujourd'hui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une série d'outils qui rendent de plus en plus visibles les dimensions jusqu'ici plutôt
invisibles.
Mais on ne voit pas encore la traduction fiscale.
Alors, Emery Jacquilla de la CAMIF plaide pour une TVA responsable. Il dit finalement, si votre produit est made in France, il est responsable, s'il est durable. De ce fait, on devrait y appliquer un taux de réduction de la TVA pour justement à la fois encourager l'économie locale, le made in France, et en même temps répondre à cet engagement d'entrepreneurs des territoires.
C'est une proposition. Alors, au point où nous en sommes aujourd'hui, il ne faut écarter aucune des solutions. Il faut les mener. Mais cette solution-là me paraît, comme toute solution technique, ensuite, vous pouvez avoir des effets secondaires non souhaitables. Donc, je ne suis pas...
C'est pire que la création d'un médicament, finalement, l'impôt, hein, avec les effets secondaires.
Mais vous pouvez aussi simplifier votre raisonnement, parce que là, vous cherchez toujours à trouver une solution fiscale locale en taxant par exemple les consommations différemment. Mais vous pouvez aussi poser les questions autrement. Ce que vous avez et la fongibilité de l'impôt. Donc l'État récolte simplement les recettes et ensuite il les dépense bien. Et si à l'échelle globale vous avez vous supprimez par exemple les niches fiscales qui sont encore accordées à des activités polluantes des entreprises, il y a beaucoup plus de choses très simples à faire avant d'en arriver à une construction aussi sophistiquée que la TVA avec des taux variables, parce que le bilan, tout cela repose sur un bilan écologique des produits. Pour changer, je pense que globalement, il faut sans doute agir sur tous les leviers dont nous disposons, c'est-à-dire il faut imposer des normes environnementales strictes aux entreprises. Il faut sans doute supprimer les niches fiscales polluantes et il faut donner à l'État les moyens d'agir réellement contre ceux qui ne respectent pas. Donc il y a des choses beaucoup plus simples à faire aujourd'hui. C'est plutôt la volonté politique qui n'est pas là.
Alors, je vais vous poser la dernière question parce que le temps file trop vite. On aimerait encore discuter avec vous longuement. Quel serait pour vous le levier, là, rapidement, que vous pensez qu'il faut actionner sur cette question de l'impôt, de la fiscalité? Si, j'ai envie de dire, vous aviez une baguette magique, ce serait quoi l'action que vous mèneriez tout de suite?
Tout de suite, c'est sans doute un taux d'imposition des sociétés mondiales plus élevé que les 15%. Donc, on nous a promis 15%, mais ils sont toujours pas effectifs, c'est toujours pas en place. Et donc, il faudrait sans doute une harmonisation fiscale internationale. C'est la européenne déjà et internationale aussi. Et c'est sans doute la voie la plus, disons, nécessaire, la voie royale pour lutter contre le moins-disant fiscal.
Merci beaucoup Wojciech Kalinowski d'avoir été notre invité. Alors il y a une autre forme d'impôt que certains appellent l'impôt volontaire, c'est finalement celui que l'on fait à des associations, à des structures, à des fondations. Finalement on retrouve dans une cause et finalement on va verser une part de son capital pour soutenir cette cause. Et il y a une structure, une association qui s'appelle 1% for the Planet qui retrouve et qui permet aujourd'hui de donner du sens, puisque des entrepreneurs reversent 1% de leurs bénéfices à cette association pour permettre le développement durable et environnemental de notre planète. On retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
On est avec Nicolas Sabatier, cofondateur de Time for the Planet. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ces 7 minutes pour changer le monde. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est Time for the Planet. Même si vous êtes présent dans beaucoup de médias, même si les réseaux sociaux font écho de votre action, toujours bon de se reposer la question. D'abord, en quelques mots, Nicolas, Time for the Planet, c'est quoi?
Alors, c'est particulier. On est une entreprise qui crée des entreprises basées elles-mêmes sur des innovations qui ont un effet direct sur les gaz à effet de serre.
Donc l'objectif, c'est vraiment d'agir sur le réchauffement climatique.
Exactement. Et on s'est posé cette question de comment est-ce qu'on pouvait agir sans même que les gens aient à faire des efforts. Comment rendre les gens plus vertueux sans qu'ils s'en rendent compte. Et on s'est dit qu'en fait, si on pouvait créer des produits et des services qui sont directement faits pour ça et qui sont plus efficaces ou moins chers que les produits polluants, eh ben, on peut peut-être faire changer les comportements beaucoup plus vite qu'avec les deux autres systèmes que je décrivais juste avant.
Vous dites que vous êtes une entreprise créateur ou créatrice d'entreprise. Ça signifie quoi ? Ça signifie que contrairement à d'autres acteurs qui sont des financeurs, qu'on appelle des fonds d'investissement, vous n'êtes pas un fonds d'investissement. Vous récupérez de l'argent et des actionnaires au travers de Time for the Planet pour être de véritables créateurs d'entreprise.
Exactement. Juridiquement, on n'est pas un fonds d'investissement. Si je veux vulgariser ce qu'est un fonds d'investissement, c'est un regroupement de personnes qui mettent de l'argent dans un endroit. Quelques personnes sont salariées pour sélectionner des projets et puis mettent de l'argent dans 10 projets, par exemple. Le but étant que certains de ces projets réussissent et permettent à couvrir l'argent qui sera perdu par les autres projets. Nous, la particularité, c'est qu'on est une entreprise. Les gens mettent de l'argent chez nous, non pas pour gagner plus d'argent, mais pour que le problème du dérèglement climatique soit réglé. Alors, au moins en partie, parce qu'on ne pourra sans doute pas tout régler à nous seuls. Mais c'est ça ce qu'on fait.
Quand on devient actionnaire, hein, puisqu'on devient actionnaire de Time for the Planet, mais c'est une entreprise, j'ai envie de dire, non lucrative, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de ressortir des bénéfices, sinon un bénéfice planétaire. Finalement, être actionnaire de Time for the Planet, ça va rapporter quoi à la personne, au-delà de simplement faire un geste financier pour soutenir ces créations d'entreprises qui, elles, auront une double vertu, générer du bénéfice et aussi de générer une action sur la planète.
Quand on écoute ce que nous demande le GIEC nous dit qu'il faut de la sobriété et de l'innovation. Dans les scénarios les plus optimistes qui sont faits par le GIEC, il nécessite beaucoup d'innovations qui n'existent pas encore. Donc en fait, il y a un gros manque qui existe dans ce domaine. Nous, on s'est dit qu'il fallait donc pousser les innovations. Donc notre métier, c'est de détecter ces innovations et les scientifiques et les ingénieurs qui les portent, de leur associer des créateurs d'entreprises confirmés, parce qu'en fait, c'est deux états d'esprit complètement différents, mais complémentaires, pour transformer une idée en produit du quotidien. Nous, ensuite, en tant que Time, on va apporter de l'argent, on va faire gagner du temps à ces deux types de personnes pour qu'elles n'en perdent pas à devoir expliquer ce que c'est, à convaincre des gens de mettre de l'argent. Nous, on les a repérés, donc finalement, on est déjà en confiance, ça va plus vite. Mmh. Et ensuite, on va partager ces innovations gratuitement pour qu'elles se diffusent beaucoup plus vite. En fait, on va créer nos concurrents. C'est des concurrents d'un point de vue économique, mais d'un point de vue écologique, c'est des alliés. Plus il y a de vendeurs d'aspirateurs à CO2, plus on résout vite le problème.
Nicolas Sabatier, finalement, vous réinventez du point de vue entrepreneurial la question, le jeu collaboratif. Je pense à Pandémique, qui est un jeu où finalement tout le monde est allié pour éviter que le virus et ses circonstances ne se propagent sur la planète. Vous faites exactement la même chose, mais du point de vue de l'entreprise et de la finance.
Exactement. En fait, c'est un petit peu comme si Time for the Planet visait à être le Wikipédia de la lutte contre les gaz à effet de serre. On repère des innovations partout dans le monde, on les met en place à travers des entreprises, elles se diffusent. Et puis, parce que il y a des personnes qui vont s'emparer de cette opportunité pour développer leur propre entreprise, bah, ils vont s'en emparer. Et en créant ces concurrents économiques, on crée des alliés écologiques, on pousse la coopération au maximum de ce qu'on puisse la pousser. Notre enjeu étant de partir de cette contrainte de « on n'a pas le temps, quels outils on trouve pour que ça aille plus vite ?» Et on pense que la culture du secret, de la possession et de l'exclusivité à tout prix n'est pas une bonne chose en temps de crise.
Alors justement, si je deviens actionnaire, j'ai droit à quoi ? Puisque c'est pas c'est à but non lucratif, j'ai donc droit à rien, sinon de voir le soleil briller tous les matins depuis ma fenêtre. Mais concrètement parlant, si je deviens actionnaire, c'est aussi pour m'investir. Comment est-ce que j'investis mon argent, j'investis mon temps, qu'est-ce que je reçois finalement ?
Alors le pari déjà de pourquoi n'importe qui peut devenir actionnaire à partir d'un c'était une volonté de transparence. Vous pouvez vraiment venir voir de l'intérieur tout ce qu'on prône, tout ce qu'on dit. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième, c'était celui de se dire, si vous êtes copropriétaire d'un projet, vous allez sans doute être plus attaché, avoir encore plus envie qu'il réussisse. Donc, l'aider en diffusant le fait qu'il existe, en faisant connaître, etc. Une des clés de la réussite du projet, ça sera en étant connu. Ensuite, le fait de devenir actionnaire, ça vous donne des droits, celui du coup de pouvoir voter en Assemblée Générale sur les projets qui seront détectés.
Ouais. Et pas de rapport, j'ai 200 000 euros, j'ai 50 euros, c'est une voix, une personne ?
Non, alors ça, on a voulu le mettre en place, mais juridiquement, c'était très risqué. C'est-à-dire qu'il y a un principe fondateur en France qui dit votre droit de vote doit être proportionnel à votre capital. Mmh. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que donc, c'est 1 euro, une voix, mais la gouvernance est très saine et publique également. C'est-à-dire qu'on sait qui vote quoi. Donc, par contre, la non-lucrativité, qui n'était pas possible non plus, on l'a résolu en mettant une condition à la distribution de dividendes, parce qu'en fait, on ne peut pas être une société commerciale non lucrative. Mmh. Donc, on a dit, dans nos statuts, Time ne peut distribuer de dividendes qu'à la condition que l'écart de température à la surface du globe soit revenu à 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Autant vous dire que on est en train de se dire si on va tenir sous les 2 ou 3 degrés, autant vous dire que 0 degré, on n'est pas prêt d'y arriver.
Donc, ce qui vous permet de mettre en place la non-lucrativité.
Ça tombe bien, exactement, c'est ça. C'est comment on recrée des nouvelles règles avec le cadre de droit qu'on a.
Merci beaucoup, Nicolas Sabatier, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Une forme, Time for the Planet, hein, une forme finalement d'impôt volontaire, on le disait en introduction. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver tous les vendredis soirs dès 17h sur rcf.fr, sur la page de l'Écho des Solutions, et tous les samedis à 14h en FM et en DAB+, partout en France et sur toutes les plateformes de podcast dédiées. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera un visage d'entrepreneur avec une femme assez étonnante, avec un parcours assez étonnant. Il s'agit de Christiane Lambert. Elle a été la patronne et présidente de la FNSEA aujourd'hui. Elle préside le COPA, qui est le comité des organisations de la profession agricole à Bruxelles. On saura tout sur son parcours, son engagement et ceux et celles qui, pour elle, changent le monde. Rendez-vous la semaine prochaine dans l'Écho des Solutions. Okay.